pas qu'un seul, un seul N. Là.
Alors, rencontre avec Anne-Sylvie Salzmann pour Dernières Nouvelles d'Australanie. Alors, Anne-Sylvie, bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter justement à nos lecteurs avant de nous parler de votre œuvre? Vous pouvez donner tous les éléments que vous voulez, y compris n'en donner aucun.
Voilà, je fais un certain nombre de choses. Je travaille, enfin, j'ai commencé un peu à mordre dans le domaine du fantastique avec, par le biais du Visage Vert, puisque je suis depuis le début membre du comité de rédaction du Visage Vert. J'ai appris des tas de choses par le Visage Vert, avec le Visage Vert, pour le Visage Vert. Donc ça fait quand même une petite vingtaine d'années qu'on s'occupe de tout ça. Et que, bon, au fur et à mesure, j'ai commencé à développer une activité de traduction de pas mal de choses. J'écrivais déjà. Et du coup, il y a quelques années, j'ai fait un petit paquet de tout ça et j'ai quitté un triste sort d'esclave dans le bureau pour aller... faire de la traduction en indépendance. Donc je traduis de l'anglais depuis un sacré paquet d'années via le Visage Vert, mais de manière plus régulière et en tant que gagne-pain, si on veut, depuis 7 ou 8 ans, 6, 7 ans.
D'accord. Voilà.
Et que dire d'autre? Et puis, je ne suis pas un auteur extrêmement prolifique, j'ai publié quelques romans au fil du temps. Le premier chez Joël Losfeld et ensuite chez Corti. Et le troisième, donc là, pour Dystopia Workshop. Et entre-temps, deux recueils de nouvelles. Voilà. Et puis d'autres projets assez curieux aussi.
Alors, quel est le lien justement, enfin, y a-t-il un lien entre votre travail de traductrice et votre travail, je dirais, d'auteur?
Est-ce qu'il y a des passerelles? Au début, il y en avait pas mal parce que je traduisais pratiquement... Enfin, je ne traduisais que des choses qui me plaisaient. C'était pour le Visage Vert, c'était pour mon propre... Donc c'était évidemment des textes qui me tenaient à cœur, voire des projets des auteurs que j'avais... Donc pas dénichés, parce que c'est vraiment prétentieux de dire ça, mais des auteurs sur lesquels j'avais envie de travailler. Et puis, au fil du temps, je travaille aussi sur des choses qui ne sont pas forcément aussi... Mais de toute façon, c'est un travail important de travailler sur... De pratiquer en profondeur, d'être obligé de labourer dans une autre langue et puis d'en tirer des choses pour écrire des choses correctes dans la vôtre. C'est évidemment, ça aide à structurer sa propre notion de la langue. Et puis, voilà, ça fait découvrir, accessoirement ou pas accessoirement d'ailleurs, ça fait découvrir un certain nombre de... En profondeur, encore une fois, parce que vous allez rester 2-3 mois avec l'auteur, des choses qui vont pas nécessairement vous influencer, mais qui vont certainement jouer un rôle.
Voilà.
Mais est-ce que j'aurais pu être auteur si j'avais pas... Je sais pas, je me pose pas la question. J'ai commencé à écrire il y a bien longtemps et j'étais pas encore dans la perspective de traduire de manière intensive. Ce qui est certain, c'est que j'avais une passion assez dévorante pour les langues. Je suis un peu nulle en langue, à part l'anglais que je maîtrise à peu près. Les autres me résistent pas mal, mais j'aime ça. J'ai des tas de dictionnaires idiots chez moi. J'ai des méthodes d'au moins 30 langues. Et plus c'est étrange, plus c'est... Et j'ai vraiment beaucoup de révérence pour les gens qui ont une facilité linguistique. Voilà. Et il y a des choses vraiment... Alors ça se retrouve dans les dernières nouvelles de Strani, parce qu'on est dans un pays effectivement imaginaire, et il y a des références linguistiques constantes. J'ai trouvé une espèce de sabir slavo, je ne sais quoi, qui est largement influencé de langues slaves, comme le russe ou le tchèque, et que je parle un peu russe, mais très très mal, mais je vois à peu près à quoi ça ressemble, donc voilà, c'est nourri de ça aussi.
Alors justement, vu que vous parlez de ce royaume, est-ce un royaume d'ailleurs d'Australie?
C'est une sorte de royaume, oui, à l'époque où c'est un pauvre pays qui a le malheur d'être coincé entre quelques voisins très gourmands. On ne sait pas trop où, mais on sait qu'il y a les Turcs pas loin, il y a les Roumains pas loin, il y a les Allemands en embuscade, il y a les Russes toujours. Et donc, il y a des fluctuations. Il y a eu 5 rois. Après le royaume est tombé entre les mains d'occupants variés et divers. Et puis comme beaucoup de ces, petits royaumes d'Europe centrale, il y a un grand travail au XIXe siècle de constitution d'une histoire profonde. Et le résultat de ça, c'est que après la guerre de 14, ce petit pays trouve son indépendance et ça se finit très mal.
Voilà. Comme voilà, pour beaucoup, ça fait un peu la Tchécoslovaquie, non ?
Ah, les Tchèques ont beaucoup plus de chance.
À ce point-là ?
Ah oui, les Tchèques sont passés sous la férule russe, mais ils n'ont pas perdu leur indépendance. Et là, maintenant, si vous retournez en République Tchèque, il y a quand même un certain... C'est un pays qui a retrouvé une certaine, et justement oui. une continuité. Là, non, l'Austrénie sombre, corps et bien, est complètement bouffée par la Roumanie, et il n'y en a plus à la fin. C'est un pays qui meurt. Le livre décrit largement la mort du pays.
D'accord. Voilà. Œuvre résolument fantastique.
Il y a des éléments fantastiques, il y en a moins, probablement, c'est assez diffus, je dirais. Il y a des espèces de fantômes, il y a des petites créatures, des sortes de petites nyx, des nyx masculins. Enfin, il y a des esprits des eaux, il y a des choses comme ça. Où il y a des, c'est pas, c'est moins résolument fantastique que.
Oui,
plus ou moins. Oui et non. Il y a des éléments qui ne peuvent se résoudre que de façon surnaturelle, mais qui sont pas expliqués. On donne pas d'explications. Et c'est D'accord. moins fantastique que ce que je peux écrire en
vous tenez pas la main du lecteur, vous le laissez se débrouiller, puis
Exactement.
Constater, de fait, bah, c'est comme ça, il pourrait autrement.
On lui donne un certain nombre d'éléments sur le pays, et puis il se débrouille avec.
Oui, vous n'êtes pas comme les cinéastes qui tournent la caméra pour dire c'est là qu'il faut regarder.
Oui, ou comme les... Ben non, il y a plein de cinéastes qui ne font pas ça du tout, Dieu merci, il y a plein de... Mais j'évite de donner des explications, c'est quand même plus drôle de ne pas en donner.
D'accord. Et est-ce qu'on suit une famille, différents personnages ? Est-ce que certains reviennent ?
Oui. On suit en quelque sorte une famille. On commence par une jeune femme qui arrive au moment justement de la constitution de cette espèce d'histoire de retour aux sources de l'Estrénie en question. On la suit. Ensuite, il y a six parties en fait. Et les deux parties suivantes, c'est ses petits-enfants, ses deux petits-fils.
D'accord.
Et ensuite, il y a un soldat roumain qui intervient là-dedans, qui n'est pas lié familialement, mais qui a quand même un lien avec les personnages précédents. Et ça finit avec un autre personnage qui est lié aux deux frères. Et puis la dernière partie, c'est une sorte de retour spectral.
D'accord. Et d'où vient le nom, justement, Strahanie ?
Aucune idée. C'est venu comme ça. Je sais que il doit y avoir une raison, mais ça vient. C'est un vieux projet que j'avais. La première fois que le nom a surgi, ça doit faire il y a 15 ans. On s'est amusé avec quelques amis à faire des petites variations sur ce genre de choses. Et j'avais dans un coin quelques éléments sur ce pays que j'ai repris ultérieurement, 10 ans après, mais sans me souvenir. Alors vraiment, d'où vient le nom ?
D'accord.
Voilà.
Oui,
il y a sûrement quelque chose, mais j'avoue que je ne me souviens pas quoi.
C'est pas bien grave.
C'est pas bien grave, effectivement.
Donc du coup, j'imagine, c'est un projet de très longue haleine, c'est le cas de le dire.
Oui. Enfin, il y a eu les racines. Ah bon. En plus, c'est nourri de tout un tas de trucs qui datent. Il y a une fréquentation. Ça reflète une fréquentation assidue de la République tchèque à une époque. Il y a des décors qui viennent vraiment de là. Que j'ai dû emmagasiner dans un coin, et puis voilà, au moment où ça devait ressortir, c'est ressorti, mais effectivement, ça a enraciné dans des choses
D'accord. assez anciennes. Et le temps de l'écriture, proprement dit, a duré combien de temps, à peu près ?
2-3 ans, j'écris pas très vite.
D'accord. Et au niveau du processus d'écriture, c'est comment, j'allais dire, manuscrit, sur PC
Là, en l'occurrence, c'était manuscrit, il y avait un gros carnet que je collais à d'autres trucs, avec des papiers, etc.
D'accord.
Puis, au moment, j'ai tout retapé.
Oui, voilà, j'allais dire, on passe du manuscrit.
Oui, j'ai pas donné mon carnet dégoûtant.
Non, mais j'allais dire, souvent, voilà. Ça, je l'ai remarqué au niveau de quelques auteurs, il y a le manuscrit, et quand on se met devant le clavier, c'est que l'idée est mûre, entre guillemets.
Je sais pas,
c'est
ça dépend
finaliser.
Vraiment. Ça dépend vraiment. Il y a des choses que j'écris comme ça, et puis il y en a d'autres que j'écris pas. Il n'y a pas de passage à la main, quoi. C'est
D'accord.
variable.
Et maintenant que le bébé est entre vos mains, et puis j'allais dire, même maintenant, entre les mains de lecteur, une certaine appréhension ?
Non,
c'est fini.
Ah oui, c'est fini. Maintenant, le lecteur en fait strictement ce qu'il veut. Moi, j'ai plus de. c'est je disparais totalement de la
derrière l'œuvre.
Enfin oui, si on veut. Non, mais c'est vrai que c'est pas très. Je travaille sur d'autres choses.
Oui, voilà, justement d'autres projets du coup en cours ou à venir.
Oui, il y a un petit recueil de choses assez bizarres qui doit paraître chez un petit éditeur plutôt de poésie, mais c'est un texte poético, ce qu'on veut, un texte d'invention de pays aussi, parce que c'est des choses qui me plaisent bien. Oui, ça m'amuse pas mal, beaucoup même. Et puis je suis censé travailler sur un autre roman. Enfin, je travaille sur un autre roman, mais.
Mais qui va prendre du temps là aussi.
Mais qu'on prend déjà pas mal, parce que qui est censé être un roman de science-fiction et ça va un peu dans tous les sens, mais bon, on va voir comment.
Sur le propre de la science-fiction.
Oui, mais là vraiment, je maîtrise pas totalement, il faut que je reprenne des trucs.
D'accord. Il y a un moyen de vous suivre? Pas du tout, vous êtes en sous-marin, vous êtes sous l'eau et on ça soit sur le net. Ou
ah oui, oui, j'ai un petit site, mais qui est un site plutôt. Je donne pas d'informations, c'est juste des choses que je fais au fur et à mesure sur Facebook. Sinon, je raconte pas ma vie trop sur où que ce soit. Mais bon, voilà, non, c'est le repérage, le petit site en question qui doit être.
D'accord.
Quand on tape mon nom, on trouve assez vite.
D'accord. Le mot de la fin vous appartient?
Le mot de ma fin m'appartient.
Enfin, pas de votre fin, pas.
Le mot de ma fin, c'est quand même autre chose. Oui, c'est autre chose. Je ne sais pas, lisez n'importe quoi. Pas nécessairement mon livre, mais lisez, quoi.
D'accord.
Lisez des bonnes choses.
Mais en tout cas.
Et réjouissons-nous de ce qu'aujourd'hui, 4 novembre, le prix Médicis ait enfin été
attribué à un livre de SF. Oui, oui, aussi tout court.
De SF, de fantastique, de ce qu'on veut, d'un livre qui est splendidement écrit, un livre énorme, quoi. Donc ça donne je crois qu'il y a pas mal de gens aussi à qui ça a donné un peu de baume au cœur, oui.
D'accord.
Parce que c'est une splendeur.
Bah écoutez, merci pour cette belle rencontre en tout cas. Bonne continuation. Et à très bientôt.
Voilà.